chez Enviro-Connexion. Nous sommes fiers de nos employés et nous serions heureux de t'accueillir dans notre grande famille. Nous sommes leaders de la gestion de matières résiduelles et nous avons des postes à combler de conducteurs classe 1 et 3, opérateurs, mécaniciens et même journaliers et éboueurs dans nos différents terminaux. Le choix, tu en as chez Enviro-Connexion. On t'invite à venir parler avec nos équipes de recrutement lors de notre grande journée porte ouverte dans une région près de chez toi, le samedi 30 avril entre 9h et 14h. À Granby, chez Sani Eco au 530 rue Édouard. À Sherbrooke, chez Sani Estrie au 405 Rodolphe Racine. À Boisbriand, chez Enviro Connexion au 4141 Grande Allée. À Belleuil, au 1205 rue Louis Marchand. Et à notre terminal de Laval, au 4799 rue Bernard Lefebvre. Seulement des postes d'éboueurs sont disponibles en ce moment. Impossible de t'y rendre? Pas de problème. Visite notre site maroute.ca ou communique avec Annie au 438-221-8733. Au 438-221-8733. Enviro Connexion. Ma route, mon succès.
Le show à l'évêque.
Le show à l'évêque.
Avec Stéphane Lévesque.
Stéphane Lévesque.
Stéphane Lévesque analyse l'actualité avec vous.
Avec vous.
Truck Stop Québec.
Ici Stéphane Lévesque et vous regardez Québec Crime. Toujours avec mon fidèle acolyte, Éric Veillette. Ça va bien, Éric?
Oui, toi?
Oui, très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a une assise régionale,
oui.
Qui a une assise trifluvienne.
Oui.
En tout cas, on va l'avoir. On va parler de la prison, de la vieille prison de Trois-Rivières, et en particulier de 7 pendus, parce qu'évidemment, on n'a plus la peine de mort au Québec, au Canada, mais jusqu'à 1976, on pouvait exécuter des gens qui avaient commis des meurtres. Donc, est-ce que tu as déjà visité la vieille prison, toi?
Oui.
C'était quand?
En 2011, la dernière fois. Parce 2011. Que, écoute, la première fois, j'étais trop jeune, peut-être, là, quand elle venait de fermer en 86. Je pense qu'il l'avait ouvert l'année d'après ou pas longtemps après. Là. Je me souviens de l'avoir vu, mais mon souvenir est plus de 2011.
Oui, parce que moi, j'avais été, lorsque j'étais étudiant, puis on avait vécu l'expérience assez totale, dans le sens que c'était pas le cas la dernière fois, mais ils nous amenaient dans les cachots en dessous, qui sont en terre battue. C'était assez lugubre, et ils nous enfermaient dans un trou. Ben, un trou, c'était le trou. Les prisonniers qui étaient... dissipés, on les mettait là. et ils avaient fermé la lumière.
Oui, aussi, ils m'ont fait l'expérience.
Et c'est assez traumatisant. C'était pas agréable pendant 15 secondes. Et je m'imagine ce que ça peut être des journées complètes à être là. C'est quand même quelque chose. Et plus récemment, j'ai eu la chance de la visiter, parce que maintenant, c'est sous la responsabilité du Musée populaire. Musée Pop, qu'on appelle.
Musée Pop.
Qui a changé.
OK.
En passant, c'est ouvert au public, on peut aller visiter ça. Et moi, j'ai eu la chance de faire la visite avec Régent. Régent, que tu connais peut-être.
Un petit peu de vue, là.
Oui, mais qui est un ancien prisonnier, entre autres, qui a fait du temps à la prison de Trois-Rivières. Et c'est une visite, moi, que je vous conseille, parce que Régent va parler de son expérience aussi. Et oui, on peut se faire rencontrer, mais quand on a un témoin, quelqu'un qui a vécu la prison de Trois-Rivières, c'est très intéressant, très une belle expérience humaine.
Oui,
parce que moi, j'ai jasé après avec Régent, puis ma conjointe aussi. Puis en tout cas, il y a un parcours fascinant, ce Régent-là. Donc, je vous invite à aller visiter la vieille prison. Et donc, tu vas nous parler spécifiquement de pendus. Il y a des gens qui ont été pendus dans la cour de la prison de Trois-Rivières. Mais ça se passait où?
Bien, ça a changé. Pas tout à fait clair, parce qu'à certaines époques, il y avait la potence existait en bois. Puis il fallait la monter pour chaque exécution.
Mais là, c'était comme une... Je vais employer un mot mal utilisé. C'est comme une scène, dans le fond.
Oui, c'est ça. Okay.
Une scène avec un poteau.
Oui, un peu comme dans les westerns encore. Tu sais, souvent, mes références sont là, mais il y a quand même des liens. Oui, c'est ça. C'était une trappe, vraiment. Ouais. Puis, dans les premières années, on ne sait pas, par contre. Parce que là, on parle vraiment d'une longue période. Il n'y a que... Ben, on dit que 7. Il y en a qui pourraient trouver le chiffre énorme, d'autres pas beaucoup moins, là, mais ça dépend des opinions.
Parce que cet édifice-là a été ouvert en 1822.
Oui.
C'est un architecte, M. Baillarger, qui s'appelle, qui a construit ça. Et la prison a été fermée en 1986. c'est quelque chose. Parce que si vous allez visiter ça, dites-vous qu'il y a eu des gens qui ont été là jusqu'en 1986. Oui, on peut dire qu'il faut punir les gens qui ont fait des mauvais coups dans la vie, là, mais de là à punir, en tout cas...
Ben, c'est parce qu'il n'y a jamais eu d'eau courante dans cette prison-là. C'était vraiment désuet.
Oui, puis 1986, là, moi puis toi, on s'en rappelle. Là. Il n'y avait pas de dinosaures là, en 1986. Là,
on avait des automobiles.
Là. Oui, oui, oui. Et entre autres, Amnesty International avait dénoncé cette prison-là, puis c'est un des facteurs qui a fait qu'il a fermé. Et particularité, elle avait tombé dans le vif du sujet, c'était à le moment où elle a fermé la prison qui avait été le plus longtemps en utilisation au Canada.
OK, ouais. Ouais.
Donc, c'est ça. Fait qu'on a ça dans le cours chez nous.
Ben oui.
Fait que là, bon, on parle de potence, c'est pas clair la méthode, là, de l'endroit où c'était.
Ben, à une certaine époque, là, vers, je sais pas, fin du 19e siècle jusqu'au restant, là, je veux dire, c'était vraiment, ben, jusqu'au restant, jusqu'au début des années 30, à peu près. C'était vraiment une potence qui montait pour l'occasion.
Okay.
Donc, on ne peut pas prétendre que... En tout cas, peut-être pour les premières années, les premiers cas qu'on va parler, parce que là, on ne le sait pas. Mais normalement, dans la plupart des exécutions, là, fin 19e jusqu'aux années 30, comme je disais, c'est vraiment une potence qui montait pour l'occasion. Fait qu'ils devaient la ranger quelque part, là, tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ces potences-là? On n'en a aucune idée. Mais après ça, Bordeaux a embarqué avec sa potence permanente. Là, à partir de cette époque-là, dans les années 30, il y avait la potence vraiment de Bordeaux en fer et tout ça. Là. On l'a vu même dans la série Les Grands Procès. Je pense qu'il y avait des clichés dans ça, en photo aussi. Là, à partir de là, on arrêtait de pendre dans chaque district. Donc, si quelqu'un était condamné à mort à Trois-Rivières après ces années-là, c'est pour ça que la dernière pendue à Trois-Rivières date de 1934. Les autres, après, bien, ils allaient se faire pendre à Bordeaux. Ouais.
On a centralisé les opérations.
Et voilà. Comme c'est à la mode maintenant, on centralise tout, on fusionne.
Oui.
On a fusionné et condamné.
Et donc, notre premier pendu, c'est M. Noël François.
Oui.
Et pour donc, François Noël. C'est Noël François.
Noël François, oui.
1825. Évidemment, on fait une précision. Il y a eu des exécutions publiques à Trois-Rivières avant.
Oui.
Mais là, on se concentre sur les exécutions à la prison de Trois-Rivières.
Exactement.
Donc, Noël François... Mars 1825, c'est un homme qui est un autochtone et il va faire un meurtre.
Oui, exactement.
Antoine Dubuc.
Oui, Antoine Dubuc. On ne connaît pas vraiment les circonstances parce que plus on remonte dans le temps, malheureusement, tu sais, comme on parle depuis le début de la série, là, vraiment de cas plus récents, entre guillemets, dans ces cas-là, on a tout. Dans le dossier, c'est dactylographié, les témoignages, on a tout. Plus on remonte dans le temps, les témoignages, t'as pas pris complètement. Fait que c'est souvent des comptes rendus qu'on a, des résumés.
Oui.
Fait que des fois, on peut dire, bon, le témoin a dit ça, mais qu'est-ce qu'il a dit? Si on a un résumé d'un paragraphe, par exemple, alors qu'il a peut-être parlé pendant une heure, bien, on sait qu'il a dit plus que ça. Mais là, historiquement, on a accès juste à ce qui reste, dans le fond. Fait que là, ce qu'on est capable de reconstituer, c'est que sa victime, c'est Antoine Dubuc, que ça s'est passé en mars 1825 dans la région de Saint-Pierre-les-Bequets. Mais le mobile, on ne le sait pas.
Okay.
Y a des fragments, à un moment donné, qui ressortent de ça. Attendez un petit peu, là. Il y a une femme qui aurait vu, une femme autochtone, là, je ne le dis pas de façon péjorative, mais c'est marqué comme ça dans le dossier, une squaw. Et elle aurait vu en train de suivre un Canadien français dans les bois. Mais est-ce que ce Canadien français-là, c'est Dubuc? Je veux dire, on manque vraiment. C'est juste des petites parcelles.
Hybrides.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu difficile. Des fois, c'est frustrant un peu. Mais c'est ça. On dépend, dans le fond, de ce qui reste, de ce qui a été conservé. Hein.
Donc, il est arrêté.
Oui.
Il est jugé. Il est arrêté et il est mis en prison à Trois-Rivières.
Oui, parce que ce qui arrivait dans cette époque-là, là, peut-être que je me trompe, mais il y avait deux sessions par année.
Oui.
La cour se regroupait deux fois par année parce que la cour n'était pas ouverte à tous les jours.
Non.
Fait que si on s'adonnait que la cour, mettons, vient de finir la semaine passée, puis là, tu es arrêté pour un crime aujourd'hui, bien, tu es obligé d'attendre l'autre session. Fait que si l'autre session est à l'automne ou au printemps, bien, tu attends. Tu pourrais rentrer en prison pendant ce temps-là.
En attente de procès.
Voilà.
Et il n'y avait pas de comité des détenus à cette époque-là et de charte des droits et libertés, etc.,
Et peut-être pas trop d'avocats de la défense non plus.
Non plus. Fait que les gens, OK, on comprend.
C'est ça.
On n'ira pas dans les détails, mais on comprend qu'il y a des gens qui ont peut-être fait du temps, puis finalement, ils sont ramassés en cour, puis ils ont été acquittés. Mais ce n'est pas le cas de M. Noël François. Donc, il se retrouve en cour, la cour du banc du roi du Bas-Canada.
Oui.
Évidemment, les termes ont évolué. À cette époque-là, le haut et le Bas-Canada existent encore. On était avant la Confédération.
C'est ça. Ouais,
1825. On était avant 1867.
Exactement.
Il se retrouve devant l'honorable qui?
Le juge en chef de la province du Bas-Canada, Jonathan Sowell.
OK.
Je sais pas si je prononce comme faux. Il y avait 3 juges à l'époque.
Oui.
Qui siégeaient pour des causes comme ça. Maintenant, c'est 1.
Oui.
Il y avait aussi le juge du district de Québec, James Kerr, et le juge provincial du district de Trois-Rivières, Pierre Bédard.
OK. Et on ne trouve pas trace d'avocat de la défense.
Non.
Donc, notre homme, notre Noël François...
Soit il se défend tout seul, mais « défendre » est un bien grand mot à cette époque-là parce que, je pense que c'est la première émission, j'avais fait une allusion que le premier code criminel canadien de 1892, donc là, on est longtemps après ce cas-là, permettait pour la première fois à un accusé de témoigner à son propre procès. Fait qu'à cette époque-là, il n'avait même pas le droit de témoigner pour sa propre défense, d'amener ses arguments, si on veut.
Et ça va quand même, aller pour l'époque, un assez gros procès, parce qu'on va inviter, il y a 20 de témoins qui vont témoigner.
Oui.
Témoigner, c'est comme un peu
oui. Mais pour l'époque, c'est beaucoup.
Il y a 20 de personnes qui vont témoigner.
Oui.
Donc, c'est ça. Et l'acte d'accusation, de quoi on accuse l'homme en question? C'est la merde, là, mais...
L'acte d'accusation, ce qui peut faire un peu sourire, c'est les termes là, qui sont utilisés à cette époque-là.
Hey, je peux-tu le lire?
Ben oui, vas-y, fais-toi plaisir.
Puis là, ces mots-là, c'est l'intégrale.
C'était, oui, ce qu'entre guillemets, c'est textuel, oui.
Donc, avoir de manière félonieusement, sauvagement et de sa malice, et avec l'instigation du démon, c'est ça l'acte d'accusation. Oui.
Parce que la justice était très proche du clergé à l'époque, de la religion. Ouais. Fait que le mal, c'est le bien, le mal, c'est encore une notion que...
Ouais. Ça fait, c'est étonnant, mais on comprend, ouais. On regarde ça avec des yeux de 2019, évoquer le démon dans un acte d'accusation.
Ouais. Ah oui, mais pour cette époque-là, c'est des choses qui se répètent. Qui
arrivent. Et il a été frappé, là, Antoine Dubuc est mort du suite à un coup d'une hachette.
Ouais.
On revient avec les haches.
Oui, hein? C'est vrai.
Les haches. Donc, il occasionne une blessure d'une longueur de 4 pouces, 10 cm par 3 pouces, 7,6 cm de profondeur. Il serait mort sur le coup.
Oui.
Donc, c'est la description de...
C'est ce que le dossier nous permet au moins de faire ressortir, parce que c'est très... C'est très mince comme dossier. Oui.
Donc, il est condamné à mort, puis il est condamné à être exécuté le 17 septembre.
Oui, il y a eu un délai, il y a eu, on ne sait pas pourquoi, là, parce qu'il y a peut-être eu un genre de petit sursis. Mm-hmm. Normalement, les sursis sont plus longs que ça. Lui, ça a été de quelques jours, fait que du 17, il a été pendu finalement le 24 septembre 1825. Il a plaidé son innocence jusqu'à la toute fin, apparemment. Ça, cette partie-là... Vu que le verdict est terminé, cette partie-là, on la tient des journaux pour les quelques comptes rendus qui ont eu lieu, parce que ça n'a pas fait des articles très longs non plus. Là.
Les journaux d'époque rapportent que disant c'était pas moi, c'est pas moi, c'est pas
ouais,
moi. Puis il va dire, mais il va avouer d'autres crimes.
Il va avouer ses autres crimes. De quelle nature, on ne sait pas, c'est pas précisé
encore
non plus.
Encore là, c'est. Et ouais. On va en parler en conclusion de ça. Ça va créer.
Ouais,
on parle de rumeurs, de légendes même.
Ouais.
Donc, c'est ça. Et particularité, lorsqu'il est pendu, il aurait déclaré être prêt à mourir
ouais.
Et il aurait chanté.
Il a chanté un hymne dans une langue autochtone qui malheureusement n'a pas été précisée, là, de quelle nation que ça provenait, on ne le sait pas. Mais il était probablement le seul à le comprendre. Puis, je veux dire, ça a sûrement créé un moment d'émotion. Là.
Oui, et on sait, ça peut paraître avec nos yeux de 2019 un peu macabre, mais les exécutions étaient publiques.
Ouais.
Donc, ça s'est fait devant des gens.
Ouais.
Il y a des gens qui ont été assistés à la mise à mort de Noël François.
Parce qu'à cette époque-là, si je peux me permettre une parenthèse, on croyait dans la société en général que les exécutions étaient dissuasives. On a fini par comprendre après, les mentalités ont changé, on finit par dire. Mais jusqu'en 1869, c'était public. Toutes les exécutions étaient publiques.
Et tu y mets l'hypothèse qu'il y a, ben pas, ça c'est pas une hypothèse, mais une légende du mur du pendu.
Ouais.
Puis ça serait lui l'origine de la légende.
Bien, la légende, moi, de ce que j'ai vu, puis à gauche, puis à droite, puis les légendes, ben, je veux pas, je m'y intéresse un peu moins.
Oui, parce qu'on n'est pas dans les faits. On
n'est
pas dans
les
pièces,
ça.
On n'est pas dans les archives.
Ben, c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à vouloir comprendre... dans le dossier qui m'a amené à fouiller dans ce dossier-là. La légende, si je me rappelle bien, mettait ce fait-là en 1790. Donc, on change de... Mais le nom est pratiquement pareil. Au lieu de s'appeler Noël François, c'était Noël Plassoa, où il y a une question, je pense, de François, mais que la pendaison n'avait pas eu lieu, évidemment, à la prison de Trois-Rivières parce qu'elle n'était pas encore construite en 1790. Que ça aurait eu lieu au mur de...
L'église.
L'église Saint-James, qui est encore debout aujourd'hui. D'où une autre rumeur qui disait à un moment donné que le mur s'effrite tout le temps parce qu'il avait possédé apparemment son esprit continuel là, puis que le mur se désagrégeait continuellement, c'était toujours à refaire.
Mais on n'est pas là pour dire si c'est vrai ou non.
Non, c'est juste légende. Pas mon domaine.
C'est une légende, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ces lieux-là, physiquement, on se promène à Trois-Rivières et c'est là.
C'est ça.
Et c'est là.
C'est de notre, notre patrimoine local.
Donc, on a réglé le cas de Noël François.
Oui.
On va avoir une autre exécution, une vingtaine d'années plus tard, un homme pour un meurtre qui est survenu à Yamachiche, Louis Lisotte Théberge.
Ouais.
Parle-moi de ça un petit peu.
Là, on a affaire, parce que c'est difficile de cerner la personnalité de Noël François. On a très peu de matière. Pour Louis Lisotte Théberge, on voit un profil un peu plus d'un criminel endurci. Là.
OK.
Bon, comme tu disais, il a attaqué une madame dénommée Gauthier. Le crime se serait produit le 3 novembre 1853 à Yamachiche. Et la particularité de ça, c'est que lui avait entendu tout bonnement, il venait travailler à Trois-Rivières.
Okay.
On présume que c'est un autre ouvrier itinérant. Il est venu travailler à Trois-Rivières, puis de fil en aiguille, en discutant, c'est devenu... il a entendu parler, lui, qu'une certaine Mme Gauthier avait beaucoup d'argent, cachait de l'argent chez elle.
Okay.
Fait qu'il est allé en prétextant qu'il voulait acheter un cheval... Puis là, ça a mal tourné. On ne connaît pas encore tout à fait les circonstances non plus. Mais il a tué cette dame-là. Et puis, il a pris la fuite avec deux revolvers. Là, on la joue quasiment un peu à la Western. Là. Il y avait deux revolvers. Puis ce monsieur-là, il a été Théberge, a été intercepté. Je pense que ça pourrait peut-être être la rivière Champlain, à Champlain. C'est entre Champlain et Batiscan qui a été intercepté par quelqu'un qui faisait traverser. Tu sais, il y avait des traversiers dans le temps. Oui,
s'il n'y a pas de pont. En tout cas, il n'en avait plus moins qu'aujourd'hui.
Puis le monsieur qui s'occupait du traversier, il dit « Moi, je ne fais pas traverser quelqu'un qui est armé. » Et puis Théberge a pris ses deux revolvers puis il a pointé ça sous le nez pour le menacer vraiment. Fait qu'on pouvait le retracer. Il a été arrêté. Puis ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai consulté le registre des prisons pour Trois-Rivières. Puis quand il a fait son entrée en prison, il l'a fait d'ailleurs en avril 1854. Alors que le crime a été commis en 1853. Fait
qu'il était en cavale.
C'est ça. Okay. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait pendant cette cavale-là, on ne sait pas. Mais c'est intéressant. Là, on voit qu'il est en cavale un certain temps. Et puis, il y a des gens de son entourage qui ont commencé à le voir, qui ont commencé à douter parce qu'il y avait soudainement beaucoup d'argent. Là, alors que,
il y avait un rythme de vie qui ne correspondait pas à ses revenus.
C'est ça. Voilà.
Ça arrive, ça. Et il y a un complice.
Il y avait un complice, oui, qui lui a finalement été...
incarcéré, lui aussi.
Oui,
incarcéré. Édouard Berthiaume.
Oui, Édouard Berthiaume qui a été écarté finalement. Il y a juste Théberge qui a été reconnu coupable de ce crime-là. Pourquoi l'autre a été écarté? On ne le sait pas. On peut-être manquer de preuves aussi.
Okay.
Mais comme je disais, dans le registre des prisons, ce qui est intéressant, c'est que... Parce que là, à cette époque-là, on ne parle pas de photos de criminels. On ne l'a pas. Si elle existe, elle a peut-être été détruite.
On n'a pas le site web de la Sûreté du Québec, les 10 criminels les plus recherchés au Québec.
Non, non.
C'est pas comme ça.
C'est ça. Mais dans le registre des prisons, on a certains détails, comme par exemple, on sait qu'il mesurait 6 pieds.
Cheveux bruns, yeux gris. Et on définit son caractère comme mauvais.
Ouais. Il n'était pas gentil.
OK.
C'était pas mon ami.
Septembre, moi non plus, je ne l'aurais pas été. Septembre 1854, on a un procès excusez-moi, devant le juge Lafontaine. La preuve est circonstancielle, mais on la qualifie de solide.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe, le procès, là?
On n'a pas beaucoup de détails. On n'est pas encore dans les transcriptions, malheureusement. Non. Mais il faut croire vraiment qu'il était solide, là. C'est là que les circonstances que je racontais tantôt qui ont été informées.
La dame, beaucoup d'argent, vol d'argent.
Fait qu'avec ce résumé-là, là, on présume que bon, il y a des témoins de son entourage qui ont raconté devant le juge qu'ils l'ont vu avec de l'argent, tout ça, comment que la rumeur s'est installée. Mais c'est ça qui est malheureux dans des cas comme ça, on reste malheureusement en surface.
Mm-hmm.
Parce que quand on a une boîte comme ça, pleine de transcriptions sténographiques, là, c'est vraiment, on peut aller dans le détail et refaire le procès, en quelque sorte. Tandis que là, dans ce cas-là...
Reconnu coupable, donc, et le 3 novembre 1854, devant une foule qu'on qualifie d'immense, Théberge monte sur l'échafaud, pâle mais ferme.
Ouais.
Et il va être il confesse son crime devant les curieux venus le voir. Et selon un journal de Montreal Witness, 5000 spectateurs ont assisté à l'exécution. C'est beaucoup de gens, surtout sachant qu'à cette époque-là, la population de Trois-Rivières était en bas de 5000.
Et voilà.
Donc, c'était un événement couru.
Exactement.
Un festival. Hein?
C'est malheureux à dire, mais oui.
Donc, on prend une petite pause, puis on revient avec le cas de William Ezra Brenard.
chez Enviro-Connexion. Nous sommes fiers de nos employés et nous serions heureux de t'accueillir dans notre grande famille. Nous sommes leaders de la gestion de matières résiduelles et nous avons des postes à combler de conducteurs classe 1 et 3, opérateurs, mécaniciens et même journaliers et éboueurs dans nos différents terminaux. Le choix, tu en as chez Enviro-Connexion. On t'invite à venir parler avec nos équipes de recrutement lors de notre grande journée porte ouverte dans une région près de chez toi, le samedi 30 avril entre 9h et 14h. À Granby, chez Sani Eco, au 530 rue Édouard. À Sherbrooke, chez Sani Estrie, au 405 Rodolphe Racine. À Boisbriand, chez Enviro Connexion, au 4141 Grande Allée. À Belœil, au 1205 rue Louis Marchand. Et à notre terminal de Laval, au 4799 rue Bernard Lefebvre. Seulement des postes d'éboueurs sont disponibles en ce moment. Impossible de t'y rendre? Pas de problème. Visite notre site maroute.ca ou communique avec Annie au 438-221-8733. Au 438-221-8733. Enviro Connexion. Ma route, mon succès.
On est maintenant rendu avec le cas de William Ezra Brenner. Va être exécuté en 1860, oui. Mais qu'est-ce qui l'amène à la potence? C'est à Wickham. Qu'est-ce qui se passe à Wickham?
Son crime s'est passé 7 ans plus tôt, en 1853. Ce qui semble ressortir le plus, c'est que bon, il a tiré sur sa mère avec un revolver. Le pourquoi, ce qui semble ressortir, surtout, encore une fois, par les journaux, parce qu'on n'est pas encore rendu à une époque où on bénéficie des transcriptions sténographiques dactylographiées. Il y a une question d'héritage là-dedans. Mais son frère, un de ses frères, a parlé aussi d'un comportement bizarre un peu. Donc, est-ce qu'il y a, tu sais, je pose la question comme ça, là, tout bonnement, là, est-ce qu'il y a une problématique d'aliénation mentale là-dedans? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils l'ont plaidé? Je ne sais pas non plus. Mm-hmm. C'est ça qui...
Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a tué sa mère.
Oui.
Il a blessé son frère, Lorenzo.
Lorenzo. Ouais. C'est ça.
Et c'est ça. Et il va être arrêté.
Oui, 7 ans plus tard, parce que le jour même du crime, il y a un de ses neveux, je pense, qui l'a vu mettre son manteau, puis il est parti. Mais okay. Il est parti pendant 7 ans.
Okay. Oh, il va être en cavale pendant 7 ans.
Pendant 7 ans.
On a-tu les détails, là, je te prends un peu de coups, mais on a-tu les détails qui font comment qu'on a fait pour le...
Récemment, puis ça, c'est un employé, écoute, je le salue en passant, Éric Lamotte-Sirène, un employé de BAUNQ à Trois-Rivières. Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Ouais. On le salue, merci.
Oui, puis en discutant avec lui, ça fait quand même quelques mois de ça, lui, il avait trouvé apparemment dans les journaux qu'après 7 ans, Brenner était comme curieux, il pensait de s'être fait oublier. Ah. Il serait revenu en curieux au Québec. Parce qu'on présume qu'il était peut-être aux États-Unis. Il serait revenu au Québec, puis là, ils l'ont attrapé.
Ah, il a été capturé à ce moment-là.
Il a peut-être voulu, mettons, revoir des membres de sa famille, quelque chose comme ça, mais c'est vague, là.
Okay.
C'est
vraiment... Donc, il va y avoir un procès.
Oui.
Il y a des membres de sa famille qui vont témoigner à cette occasion-là, qui vont l'incriminer.
Oui.
Ils vont l'incriminer. Et là, on...
Et là, sur...
Je parlais d'aliénation.
Oui.
Mais on n'a pas ça dans les transcriptions sténographiques du procès.
Non, on ne peut pas aller argumenter plus loin que ça.
Et le 26 octobre 1860, il pleuvait à torrents.
Oui.
Donc, c'était très pluvieux. Il s'est pendu dans l'enceinte de la prison de Trois-Rivières. Et ça s'est fait à 11 heures le matin. Et jusqu'à la dernière minute, M. Brenner va refuser les sacrements religieux.
Ce qui était quand même rare à l'époque.
Parce qu'on offrait comme la dernière confession.
C'est ça. Il y avait un prêtre qui les accompagnait jusqu'à la dernière minute. Là.
Et selon le journal La Minerve, ses derniers mots ont été blasphématoires. Donc, il va jurer.
Oui. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? On ne le sait pas encore une fois, mais c'est sûr que les journaux, à cette époque-là, il y avait plusieurs mots de banni qu'on n'écrivait pas. Mais on peut imaginer qu'il
y a... Le sacré.
Il a laissé à l'écho sa frustration.
Et il y avait, malgré l'appui, il y avait quand même 2000 personnes qui ont assisté.
Ouais.
Là, on va parler d'Alexandre Vallée.
La Vallée,
excusez-moi. Mm-hmm. Et Alexandre La Vallée, c'était un gars de Saint-Étienne-des-Grès.
Oui.
Hein? Puis ça, tu sais, on parle d'histoire. Il y a des gens qui nous écoutent qui restent peut-être à Saint-Étienne-des-Grès.
Oui.
Oh, mais sachez que c'est pas une gloire. C'est
non.
Pas... Et il était dans le 4e rang.
Oui.
C'était un homme assez âgé.
Oui, c'est ça la particularité de ce dossier-là, parce que dans les crimes majeurs à cette époque-là, on parlait de condamnés à mort, tout ça, dans ces âges-là, j'en ai pas vu beaucoup, vraiment pas. Et en plus, d'avoir, d'être un septuagénaire, d'avoir, ouais. il disait, les comptes rendus disaient 70 ou 71 ans, ce serait un crime à caractère sexuel. Et la victime, c'est sa fille, qui avait à peu près 43-44 ans.
C'est assez scabreux. Ouais. Donc, le crime...
Donc, ça commence, cette histoire-là, qui va s'étaler sur un an environ.
Oui.
Le 10 août 1926, ça devait être dans leurs habitudes, là, d'après ce que c'est, d'après ce qu'on voit, c'est qu'il descend au marché de Trois-Rivières, en calèche, avec sa fille, pour aller vendre des petits fruits des champs, hein, que les autres cueillaient sur leur ferme.
OK.
Et le soir, l'habitude, là, ils reviennent vers 16 heures. Et l'habitude que sa fille avait, qui s'appelait Rosanna Lavallée, elle avait pour habitude d'aller voir les voisins, d'aller passer voir les voisins en face, les pèlerins.
Les saluer.
Oui, les saluer, passer un petit peu de temps avec eux autres sur la galerie. Tu sais, peut-être que c'était plus de son âge aussi que son père. Là. Parce que là, il faut dire qu'elle vivait seule avec son père, mais elle était quand même mariée avec un homme... Monsieur de Vaudreuil, qui lui travaillait à cette époque-là en Ontario, sur les chantiers de l'Ontario. Okay. Fait qu'il était absent des longues périodes de temps. Fait qu'elle, pendant ce temps-là,
restait avec son papa.
C'est ça. Mais au cours de la soirée, Désiré Pellerin, le voisin d'en face, et sa femme, ils n'ont jamais vu Rosanna venir les saluer. Fait que là, ils ont trouvé ça bizarre, mais sans plus. Okay.
Parce qu'elle avait l'habitude, c'était comme elle saluait. Elle allait donner ce qui se passe de bon à Trois-Rivières, au marché.
Puis as-tu des nouvelles de Trois-Rivières?
Ben, on a vu un thème, tout ça, tout le monde s'est bonne humeur. Fait qu'elle ne se présente pas, eux autres, ils disent, bon, ça arrive, tout ça.
C'est ça.
Et là, notre homme, Alexandre Lavallée, lui, il est aperçu en train de retourner vers la ville.
Oui.
En soirée, vers, en début de soirée.
Oui, vers 17 h, on le voit retourner tout seul. Vers la ville de Trois-Rivières.
Okay.
Et pas longtemps après, il y avait un livreur de mon Dieu, je me rappelle plus si c'était un livreur de lait, mais c'était un jeune garçon. Lui se présente chez Lavallée, comme d'habitude, pour faire sa livraison.
Dans le rang 4 à Saint-Étienne.
Dans le rang 4 à Saint-Étienne. Et puis, il remarque qu'il y a un cadenas sur la porte, mais le cadenas est à l'extérieur de la porte.
Okay.
Puis vers minuit, les pèlerins sont réveillés soudainement par quelqu'un qui frappe à la porte. Et en ouvrant, c'est M. Lavallée, leur voisin d'en face, qui leur dit tout bêtement, ma fille a été assassinée, elle est dans son lit, puis tout est ensanglanté. Fait que là, wow, c'est un peu, là. C'est un choc, premièrement, mais ils traversent.
À la maison de Lavallée. À la maison de Lavallée. Rosanna.
C'est ça.
Et là, la scène de crime, c'est là.
Oui, eux autres l'ont vu. Les pèlerins ont été les premiers à voir la scène de crime.
OK.
Ils apportent l'assassin.
Oui.
Puis là, eux autres, à ce moment-là, ils n'ont pas de doute à propos de Lavallée, là, tout ça. Ils voient. Le corps, elle, est en travers sur son lit. Dans sa chambre, puis c'est très, très ensanglanté. Il existe des photos de ça, mais une fois que le corps a été emporté.
Okay.
Et là, évidemment, la police est contactée, mais la police de cette époque-là, c'est celle de Trois-Rivières qui embarquait sur...
Et là, il y a un policier qui rentre en action, ouais. Jules Vachon, qui débarque très tôt le matin à 5h50.
Ouais.
Puis là, il retrouve le monsieur Lavallée, 70-71 ans, en train de ronfler dans sa chaise berçante, à côté du corps. La pipe est tombée à terre. Ouais. Puis,
pendant ce temps-là, le corps est encore à côté.
À côté. Et un détail qui est assez troublant, c'est qu'il y a du sang sur les vêtements du monsieur en question.
Voilà.
Et là, notre homme
passe pas inaperçu aux yeux de Vachon, qui, lui, l'a suspecté assez rapidement, là, tout de suite. Là.
OK.
Fait que là, l'enquête s'est déroulée. Après, lui, il l'a ramené à Trois-Rivières tout de suite. Il a quand même permis à Lavallée d'assister aux funérailles de sa fille qui se sont déroulées dans le cimetière de Saint-Étienne-des-Grès.
Donc, la pierre tondale, si on va aujourd'hui, on présume que...
Je suis allé en 2011.
OK,
c'est pas trouvé. Je suis curieux, là. Je suis pas hyper morbide, puis je cours pas ça.
Non.
Mais je suis allé en 2011, puis j'ai rien trouvé.
OK.
Sauf qu'en arrière de l'église, moi, j'avais vu, j'ai encore les photos de ça, c'est des pierres tombales en bois.
Ah.
Les inscriptions, t'as effacé dessus, on voyait plus
et
rien.
Et qui se sont désagrégées. Ouais. Du bois, c'est pas du, c'est pas du béton.
Hein? Puis tu sais, on verra tantôt, je vais pas couper mon punch, mais Lavallée aussi a été enterré là.
OK.
Puis lui, il n'y a rien. Mais lui, on peut comprendre, mais pour sa fille, je comprends pas pourquoi on a effacé ce bout d'histoire-là, mais bon.
Donc, on va le condamner coupable, on va également déterminer qu'il a violé.
Oui,
la jeune fille.
Oui, puis dans le procès, c'est le docteur Rosario Fontaine qui témoigne, qui lui, ça dit peut-être rien aux gens qui nous écoutent, là, mais Rosario Fontaine, c'est le protégé du docteur Wilfrid de Rome. C'est lui Durham, qui a fondé en 1914 l'Institut de médico-légal à Montréal.
Oh, okay.
C'était quelqu'un de très, très...
calé.
Oui.
Un coco.
Puis Fontaine, ben, c'était son protégé. Donc, c'est Fontaine qui enquête là-dessus. Puis lui, ce qu'il va dire pendant le procès, c'est qu'il est incapable de dire si la victime a été violée avant ou après sa mort.
OK. On va prendre une pause sur ce détail assez troublant. Donc, on prend une pause, puis on revient à la conclusion de cette histoire-là de M. Alexandre Lavallée.
Oui.
Chez Enviro-Connexion, nous sommes fiers de nos employés et nous serions heureux de t'accueillir dans notre grande famille. Nous sommes leaders de la gestion de matières résiduelles et nous avons des postes à combler de conducteurs classe 1 et 3, opérateurs, mécaniciens et même journaliers et éboueurs dans nos différents terminaux. Le choix, tu en as chez Enviro-Connexion. On t'invite à venir parler avec nos équipes de recrutement lors de notre grande journée porte ouverte dans une région près de chez toi, le samedi 30 avril entre 9h et 14h. À Granby, chez Sani Eco, au 530 rue Édouard. À Sherbrooke, chez Sally Estrie, au 405 Rodolphe Racine. À Boisbriand, chez Enviro Connexion, au 4141 Grande Allée. À Belleuil, au 1205 rue Louis Marchand. Et à notre terminal de Laval, au 4799 rue Bernard Lefebvre. Seulement des postes d'éboueurs sont disponibles en ce moment. Impossible de t'y rendre? Pas de problème. Visite notre site maroute.ca ou communique avec Annie au 438-221-8733. Au 438-221-8733. Enviro Connexion. Ma route, mon succès.
Ce qui peut paraître troublant, bon, on parlait de l'aspect très troublant du viol. Un père qui viole sa fille, c'est assez troublant. Et même qu'il aurait peut-être eu un viol après la mort, on appelle ça de la
nécrophilie.
Nécrophilie. Ouais. Donc, on n'ira pas dans les détails. Mm-hmm. Et ce qui est encore troublant, c'est que selon les journaux d'époque, il se permettait de blaguer durant le procès, l'homme en question. Ouais. Et il va avoir une lettre le 21 juillet 1927 qui est écrite par le sénateur Jacques Bureau, mm-hmm. qui s'adresse au solliciteur général, l'honorable Lucien Cannon. Et je vais me permettre de lire la lettre en question.
Oui, vas-y.
L'extrait, du moins. « J'ai ici deux de mes amis, Jean-Marie Bureau et Léopold Pinsonneau, qui ont défendu un vieux vaurien du nom de Lavallée qui ne vaut pas la corde pour le pendre. Je te dis cela sérieusement, et c'est pour cela que je te demande à commuer sa sentence, parce que ça serait une dépense inutile que d'acheter une corde pour débarrasser l'univers d'un pareil individu. » C'est très dur comme propos.
Ouais.
Donc, il demande de dire, bien, on exécute-le pas, mais condamne-le plutôt à prison à vie. C'est particulier, mais c'est en tout cas, ça ne sera pas retenu.
Non, les arguments ne seront pas assez solides.
Et on évoque dans ce cas-là, le docteur Napoléon Lambert va évoquer l'aspect de... il souffrait d'érotisme.
Oui.
Donc, pour l'époque, là, dis-moi, je me trompe, mais d'intégrer une perversion sexuelle dans un cause, c'est quand même assez peu commun.
Oui, je pense que oui, parce que on le voit par les termes qui sont utilisés. Oui. On voit que c'est pas assez, peut-être, soit que c'est tabou ou qu'ils n'en sont pas encore rendus là dans leur réflexion. Parce que maintenant, on sait que si on va sans jouer les spécialistes, quand on fait la lecture de livres de spécialistes sur la question, les tueurs en série, il y a tout le temps une base sexuelle à travers ça.
Oui.
Puis, tu sais, il y a d'autres meurtres aussi uniques, là, qui... Mais là, de parler d'érotisme, pour expliquer mobile de meurtre, tu sais, on voit qu'il y a un contournement, peut-être, ou c'est peut-être juste malhabile dans le choix de mots aussi, là. Mais c'est ça, on voit qu'il y a une connotation quand même.
Parce que le mot d'aujourd'hui, on parle d'érotisme aujourd'hui, on n'associe pas ça à de la nécrophilie.
Non, bien, premièrement, l'érotisme, c'est une bonne chose.
Oui,
on n'associe pas ça au crime non plus,
oui.
Fait que c'est pas le bon terme là, utilisé.
Mais c'était peut-être le terme d'époque.
Oui, c'est ça.
Et il y a comme un genre de retournement dans cette histoire-là, mais qui ne retournera pas grand-chose, c'est qu'il y a un détenu de la prison de Bordeaux, Georges, alias Alphonse Boucher, qui va s'incriminer, lui, du viol puis du meurtre.
On ne sait pas trop pourquoi. Je ne sais pas si à la limite, ça peut... Parce que c'est sûr qu'évidemment, le dossier ne nous le dit pas, mais c'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est une stratégie de la défense qui ont réussi à trouver... je vois loin, là. Mais trouver quelqu'un pour, en échange de quelque chose, dire, garde, tu vas nous... nous monter cette histoire-là pour nous faire libérer la vallée. J'en ai aucune idée. Mais ça n'a vraiment pas été retenu au sérieux, là.
Donc, il va être quand même, il va être reconnu coupable, va être pendu le 12 août 1927.
Oui.
Et on rapporte que la vallée a été un des plus froids suppliciés. Comment tu dis ça?
Suppliciés, ça veut
supplicié
dire.
Suppliciés ouais. de l'histoire du Québec.
C'est un synonyme de pendu.
Oui. Donc, il est arrivé là, cold.
Oui, carrément. Parce que normalement...
Imperturbable.
Et voilà, et voilà. Parce que, tu sais, dans tous ceux que j'ai vus, c'est sûr que toutes les pendaisons n'ont pas été décrites dans le détail. Fait qu'il y en a, des fois, on ne sait pas trop ce qui s'est produit à la dernière minute. Mais la plupart, il y en a qui ont flanché, il y en a qui ont déclaré des choses. Tu sais, comme tu disais tantôt, ça paraît fou, mais c'est un terme qui était utilisé souvent, « monter de façon ferme sur l'échafaud ». Mais c'est un terme qui revient souvent dans les articles de journaux de l'époque. Il a monté ferme, ça veut dire qu'il assumait, lui, il a monté. Mais souvent, il y en a qui craquaient un peu, puis tout ça. Mais lui, non, il avait l'air vraiment nonchalant, apparemment, selon les comptes rendus.
Et ce cas-là, une particularité, une autre, c'est que quand on dit on a de tout dans des archives, il y a des cheveux.
Oui,
Que tu as consulté les cheveux de la victime?
C'est les cheveux que la victime avait dans sa main.
Ah.
Donc, on présume que c'est les cheveux de la vallée, de son père.
Okay.
Puis, ils ont été analysés par le docteur Fontaine à l'époque pour prouver, voir si c'était vraiment les cheveux du père. Tu sais, on commençait vraiment à utiliser des techniques.
Donc, on en vient à un cas, Joseph Lebel, alias Michaud, 1931, à Nicolette.
Oui.
Moi, je dis Nicolette.
Oui, moi aussi.
On peut dire Nicolette, moi, je dis Nicolette. 22 1931, on retrouve les corps de Jean-Baptiste Belrose et sa nièce Antoinette, donc un double meurtre.
Ouais.
Et s'il y a eu du désordre qui a été constaté dans la chambre de la jeune fille, et elle portait encore des vêtements de nuit.
Oui.
Et là, l'enquête s'amorce. Les détectives Doré et Louis Jargail.
Et Hector Doré puis Louis Jargail, c'était deux autres plus dans les années 20, fin des années 20. Jargail a été quand même, c'est un Français établi ici, mais il a été sur des grosses enquêtes pour son époque en tout cas.
C'était des tops, là. Doré puis Jargail.
C'est ça. Fait quand ça descendait à Trois-Rivières,
on présume que les policiers sont tous bons, mais des fois il y en a des meilleurs que d'autres. Puis ceux-là, c'était deux bons.
Bien, ça a toujours été aussi les crimes graves.
Ouais.
C'était souvent. Puis même encore aujourd'hui, je pense qu'il se passe un crime grave à Trois-Rivières, ils vont faire venir le top de la SQ. Ils vont
Les crimes majeurs.
C'est ça.
Tous les policiers sont bons, on le dit.
Oui, oui.
Mais quand tu es au crime majeur, tu es comme dans la ligne nationale.
C'est ça. Tu es ailleurs.
Il y a du junior majeur, puis la ligne nationale, puis ça, c'est la ligne nationale.
C'est ça.
Donc, les soupçons se tournent vers Joseph Michaud.
Oui.
Parce que l'homme en question, bien, pas pour ça qu'il fait que lui un meurtrier, mais c'est quelqu'un qui est un peu itinérant. Dans le sens, un employé agricole qui se promène d'une ferme à l'autre travailler. Et on constate qu'il s'est. Pas sûr, il a quitté précipitamment son lieu de travail.
Le même jour que le meurtre, là, ou à peu près. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qui.
Et on le traque.
Oui, c'est le détective Guyon.
OK.
J'ai pas pu retracer d'autres informations sur ce détective-là, mais qui, lui, va le traquer jusqu'à Rimouski. Puis là, à ce moment-là, notre bonhomme avait changé de nom pour Lebel.
OK.
Donc, d'où la confusion. Des fois, on l'appelle Lebel ou Michaud, là, parce que même dans les comptes rendus, on utilise les deux. Moi, j'essaie souvent de me fier, même pour l'orthographe de certains noms, j'essaie de me fier quand c'est dans le dossier judiciaire, de la façon que c'est écrit. Mais même encore là, des fois, il y a différentes façons. Puis bon,
fait qu'il est ramené à Trois-Rivières, est amené à procès devant le juge Aimé Marchand.
Oui.
Et il va être défendu par les avocats Trahan et Gariépy.
Oui, exactement. Juste une petite parenthèse pour Aimé Marchand. Ça a été, lui, c'est un juge qui est originaire de Louisville, Muskinongé.
Oui.
Et puis, il y avait quand même une grosse expérience pour l'époque parce qu'il y a... Il a présidé les procès de pratiquement tous les derniers condamnés à Trois-Rivières. Mais il avait travaillé aussi sur l'affaire en tant que procureur avant de devenir juge, parce que son premier procès, c'était celui de la vallée, qu'on a parlé tantôt. Mais il était procureur dans l'affaire Blanche-Garneau à Québec, aussi, en 1920. Fait que, il a vraiment touché à beaucoup de choses.
L'habitude des grosses causes.
Oui.
Okay. Hey, ça doit être que je... Parenthèse. On en fait-tu des parenthèses? On va en faire un autre.
C'est correct.
T'sais, juge condamne quelqu'un à mort. C'est quelque chose.
Hein? Il y en a qui étaient dans certains journaux, parce que dans les transcriptions, c'est pas écrit, mais dans les journaux, il y en a qui fondaient en larmes parce qu'ils étaient touchés par la cause.
Les juges?
Les juges,
c'est rapporté, ben oui.
Parce qu'il y avait tout un rituel aussi, parce que quand ils condamnaient, là, il y avait le verdict. Ça, c'est le jury qui donne le verdict. C'est ça. Puis après, le juge, il était obligé de condamner à mort, même s'il n'était pas d'accord avec l'opinion du jury ou peu importe. Mais là, il fallait qu'il enfile des gants noirs. Puis un tricorne noir. Tricorne, c'est les chapeaux à l'ancienne, vraiment en trigone. Puis là, il prononçait la sentence de mort. Ah, ouais. Ouais, fait qu'il y avait tout un rituel.
Fait que là, en vertu de l'article 967 du Code criminel, on va essayer d'exenter Michaud de la peine de mort.
Ouais.
On voulait le déclarer inapte.
Ouais.
As-tu des informations? Pourquoi?
Les informations, malheureusement, peut-être plus tard, parce que lui, vraiment, je l'ai le procès au complet. Okay. Lui, on l'a dactylographié, mais j'ai juste pas eu le temps de le lire au complet.
Ce gars-là, il lit des procès, des 90 procès.
C'est ça, moi, sur ma table de chevet, c'est ça.
Ben, c'est correct. Mais en tout cas, on peut présumer peut-être.
Oui, mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas été retenu? Là, peut-être que je pourrais revenir plus tard.
Puis, il va être condamné à être pendu le 5 février 1932.
Ouais.
Il passe sa dernière nuit à prier.
Oui, apparemment.
Avec un abbé.
Ouais.
Et il assiste à une messe à 5h30 du matin. Il pleure en silence.
Oui, avec l'abbé Léon Verschelden.
OK.
Je
ne
sais pas si je prononce comme faux. J'ai retracé quelques infos, lui, sur cet abbé-là, qui n'a accompagné beaucoup. Il avait accompagné la vallée aussi dans ses derniers moments, mais il se tenait à Bordeaux. C'était l'aumônier de Bordeaux.
OK.
Et puis, j'ai retracé. Il est mort en 69, ce prêtre-là. Ouais.
Donc, il va avoir un comportement un peu particulier, Michaud. Il va serrer la main de son geôlier.
Ouais.
Du shérif. D'un garde pour leur demander pardon.
Oui.
C'était quand même étonnant.
Je trouve ça un peu... Ben, c'est sûr que c'est théâtral, mais c'est peut-être un geste de nervosité.
Ah.
Mais dans le fond, moi, ce que je me dis, la pensée qui me reste avec ça, il demande pardon au shérif et au geôlier, mais c'est pas à lui qu'il aurait demandé pardon. C'est
à sa victime.
Ben c'est ça.
À ses victimes.
Ouais.
Et l'homme de Nicolet, qui a commis son crime à Nicolet, fut enterré dans le cimetière catholique de Trois-Rivières.
Mm-hmm.
Et là, c'est la description, c'est vrai de vrai, ce qu'on va dire là. C'est prouvé. Il a été enterré avec la tête enveloppée du capuchon noir que le bourreau lui avait mis pour l'exécution.
Oui. Ça, je peux pas le savoir pourquoi, mais normalement, ils mettaient un capuchon avant de mettre la corde au cou. Mais ils ont décidé, cette fois-là, de lui laisser le capuchon pour l'enterrement.
C'est bien. On en est maintenant à Alfred Coulombe, qui va être arrêté le 20 juillet. Ben, il va-tu être arrêté le 20 juillet? En tout cas, son crime a été commis le 20 juillet 1932, ouais. Exécuté en 1933. Explique-nous un peu, c'est quoi qui va amener Alfred Coulombe à la potence?
À la potence. On va y aller peut-être en deux étapes.
Oui.
1932, le crime.
Oui.
De la façon que ça se produit, là, on est à Saint-Léon-le-Grand, encore dans le secteur de Louisville.
Oui.
Coulombe...
Il reste là.
Oui, il reste là. Et il était en train de discuter, quand ça s'est passé, il était en train de discuter tout bonnement là, chez lui avec deux amis.
Okay.
Et puis là, il y a Mme Valcourt, hein, c'est ça?
Marie-Louise Valcourt, Marie-Louise. Qui passe en face chez lui.
C'est ça. Elle revenait de la beurrerie, pour acheter du beurre ou vendre du beurre, je ne sais pas. Elle revenait à pied. Okay. Puis quand il l'a vu passer, il est allé à sa rencontre là, pour ce que les voisins ont dit. Puis il y avait des affaires à régler avec elle, on ne sait pas quoi.
Puis on n'entendra pas l'échange, parce que les deux amis de M. Coulombe, ils n'entendent pas.
C'est ça.
Mais là, il se passe quelque chose.
Il se passe quelque chose.
Il connaît. Un acte de violence assez extrême.
C'est ça.
Et là, Coulombe, qu'est-ce qu'il fait?
Coulombe, il sort de sa poche une barre de fer qu'on sait aujourd'hui que ça ressemble énormément à une lame de ressort d'automobile.
OK.
OK. Pourquoi qu'on le sait, c'est que la barre de fer, je l'ai eue dans mes mains. Elle existe dans le dossier. Elle est encore dans le dossier judiciaire à BANQ, okay. Trois-Rivières. Et puis, elle a été découverte l'année passée, en plus. Fait que c'est tout récent.
Comment ça? Elle était perdue dans des archives?
Non, c'est qu'il y a des dossiers. Il y a tellement de dossiers, des archives, comme on expliquait à la première émission.
Oui.
C'est qu'il y en arrive à tous les ans aussi. Hein.
Okay.
Fait qu'il y a
ils sont rapatriés. C'est ça. Fait que ça, c'était peut-être d'un autre
c'est
boîte.
Ça. Fait qu'il y a des dossiers qui n'ont pas été traités encore. Puis, c'est tout à fait normal. C'est pas parce que...
Ce que je comprends, c'est que... des archives sur un procès en particulier sont peut-être pas encore fixées, là, dans le sens qu'on les a pas tous encore, mais sont quelque part, mais vont être répétées.
On a fait des découvertes. Ben, d'ailleurs, mon projet, qu'on parlera dans une future émission, mon projet JDEX a permis, que j'ai fait un peu pour l'école aussi, là, mais bon, a permis de découvrir au moins 3 ou 4 dossiers qu'on croyait disparus ou détruits. Pour la région de Trois-Rivières, c'est merveilleux. Là, on trouve plus de détails.
Donc, c'est pas drôle. Là. Il sort une barre de fer, frappe la dame avec violence.
Ouais.
Un des témoins tente de s'interposer, mais il hérite d'un coup de poing dans l'estomac.
Et voilà.
Fait que l'homme en question, il veut commettre son crime.
C'est ça. Fait qu'on voit qu'il y a comme une certaine rage meurtrière là, qui soudain s'empare de M. Coulombe.
Et détail, après son crime, il marche à travers un champ jusqu'à l'église pour se rendre.
Un coup que c'est fait, là, lui, c'est comme s'il revenait à la normale. je marche, je m'en vais me rendre au curé. Puis ça finit là.
Il y a sujet, sauver, ça. Ouais. Pas tout ça.
Ouais.
Et il y a une question. Oui. C'est quoi le mobile de ce crime-là? Parce que là, le procès va commencer le 26 octobre 1932 devant le juge Aimé Marchand.
Encore une fois, oui.
Oui.
Et le mobile, c'est que c'est la recherche dans les archives qui nous permet de le trouver un début de mobile.
Parce que pourquoi, d'une rage meurtrière, il frappe la dame? Pourquoi?
Parce qu'il existe deux avenues, si je pourrais dire, dans les mobiles. Moi, ce que j'ai entendu de certaines personnes qui se souviennent de ça vaguement, c'est qu'il y aurait eu une histoire de jupon ou de couchette entre les deux, entre l'assassin et sa victime.
Ça serait peut-être un crime passionnel.
C'est ça.
Okay.
Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Moi, je n'ai rien trouvé dans le dossier par rapport à ça. Ce que j'ai trouvé, par contre, c'est pas par hasard, mais je veux dire, en faisant mon projet d'indexation, c'est qu'on remonte 4 ans avant, 1928.
Oui.
Il y a un litige. Moi, j'ai été surpris en voyant. Je dis, c'est le nom de Coulombe apparaît avec Mme Valcourt. Il y a un litige entre les deux qui n'est pas tout à fait clair. Même celui-là, je l'ai tout lu. Puis il n'est pas tellement épais. Là. C'est un procès pour vol. Dans le fond, elle l'accusait de vol. Il aurait volé des pièces dans son garage. Mais concernant une auto de Mark Ford, qui lui aurait appartenu, fait qu'il l'aurait mis en pension là. Puis il aurait été lui-même en pension, un pensionnaire chez Mme Valcourt. Son auto était dans le garage de Mme Valcourt. C'est pas clair. Même en lisant tout, c'est pas tout à fait clair.
Mais on comprend qu'il y a une vieille histoire qui traînait, un litige qui s'était ramassé en cours.
C'est ça.
Qui traînait.
Okay. Fait que, est-ce que c'est ça 4 ans plus tard? Là, c'est une découverte archivistique, dans le fond, qui m'a permis de... Pas de comprendre vraiment, mais là, d'apporter un autre questionnement. Si
et cet homme-là, bon, reconnu, on comprend qu'il... pas un procès qui a dû être très, très long.
Non, c'était pas des procès très, très compliqués.
Non, c'est ça. Et il est exécuté à 7 heures le matin, le 20 janvier 1933.
Exactement.
On en vient maintenant, on passe de Saint-Léon-le-Grand à Shawinigan Falls.
Ouais.
Hildège Blais, c'est bien comme ça qu'on dit ça,
Hildège.
Et donc, le monsieur Blais en question, qu'est-ce qui se passe le 3 novembre 1932?
Le 3 novembre 1932... Les parents de Hildège Blais, parce que c'était un jeune homme de 24 ans, ses parents s'en vont à Louisville visiter de la parenté, tout ça par le train probablement, bon bref. Mais cette journée-là, il y a quelque chose qui est décrit un peu comme si c'était, pour son âge, quelqu'un qui... Tu sais, son père insistait pour dire « bon, tu vas aller recueillir les loyers ». C'est ça qu'il était censé faire dans sa journée, parce que son père, M. Blais, avait des loyers ou je sais pas trop,
des blocs d'appartements.
C'est ça. Mais il insistait pour y dire, comme si quelqu'un qui était, tu sais, Hildège Blais était peut-être pas autonome ou, tu sais, qu'il fallait qu'il...
Déficience intellectuelle,
peut-être. Tu sais, qu'il soit toujours gardé en laisse un peu.
OK, t'sais. 24 ans, au sens figuré, là.
Oui, oui.
Donc, 24 ans, son père, il dit, oublie pas, puis, comme tu parles à un enfant de 9-10 ans,
c'est
peut-être,
ça, là. Ça faisait un petit peu immature.
OK, là, je comprends.
Et finalement, il n'ira pas recueillir les loyers du tout.
Okay.
Lui, il a une idée, cette journée-là, dans la tête, une idée fixe. C'est qu'il veut une arme à feu puis une arme de poing. Une arme de poing, on parle de revolver ou de pistolet.
Oui, petite arme.
Ouais, c'est ça.
Tandis que l'autre va se tenir à deux mains.
C'est ça, une arme longue, tu sais. Okay. Puis lui, son prétexte, c'était pour la chasse.
Ah, ben aller à la chasse, moi.
À la chasse avec un revolver puis un pistolet, c'est pas... Tu sais, ça aurait dû soulever des doutes. Mais bon, il y a encore bien des questions qui restent sans réponse là-dedans. Mais lui, il va s'adresser à un dénommé Armand Boisvert pour avoir ça, avoir cette arme-là. Qui, lui, se tenait dans un stand de taxi à Shawinigan, tout ça. Puis apparemment, ce qui ressort un petit peu, sans pouvoir le prouver, parce que le procès n'a pas réussi à le prouver clairement, c'est que ce Armand Boisvert-là, c'était le genre de personne qui pouvait tout avoir. Là. Puis, écoute, en même journée, il réussit à y dénicher quelqu'un. Qui va y vendre? Là, la transaction se fait quand même en quelques heures. Hein. Sur l'heure du midi ou dans l'après-midi, c'est fait, déjà. Mm-hmm. Puis ils ont réussi à aller à l'île Melville, ce qu'on appelle l'île Melville aujourd'hui, aller essayer l'arme. Il a emmené des cartouches, tout, ils l'ont essayé, tout ça, il est reparti.
Service après-vente.
Ouais. Ah, oui, tout ça pour 15 $. Ça paraît dérisoire aujourd'hui.
Ben, c'est de l'argent.
Oui, c'est difficile à évaluer, mais 15 $, tout était réglé.
Okay.
Alors, ça reste là. Au cours de l'après-midi, on a de la misère à savoir qu'est-ce que Hildège Blais a fait avec cette arme-là. Mais sur l'heure du souper, son père revient. Ses parents, c'est-à-dire, reviennent de leur voyage à Louisville. Puis là, ils se rendent compte que lui, le père devait s'attendre, c'est ce qu'on comprend, on en déduit, il est fâché parce qu'il s'attendait à ce que son fils soit à la maison, à son retour. Là, il n'est pas là.
Python, comme on parlait tantôt, c'est être quelqu'un qui avait des consignes à respecter dues à ses incapacités.
Okay. Mais on va le comprendre dans pas long. Peut-être quelque chose qui pourrait expliquer ça, c'est que Hidège Blais avait déjà fait de la prison. À Saint-Vincent-de-Paul, rien de moins. Fait que là, lui, le père, ça le fâche un peu parce qu'il décide d'aller retrouver son fils. Fait qu'il part à pied dans les rues de la ville.
T'es où, toi? On va te trouver.
Ça. Bon. On s'entend que Shawinigan était un petit peu plus petit, peut-être, à cette époque-là. Et puis, vers 18h, sur la 4e rue, entre les rues Mercier et Tamarack, il retrouve son fils. Et au moment que le père arrive, il rencontre Valéda...
Lafontaine.
Lafontaine.
Qui est la jeune amie.
La jeune amie d'Hildège Blais. Parce que en achetant l'arme, ce qu'il n'avait pas dit, évidemment, il est assez wise pour ne pas le dire à Boisvert, entre autres, les raisons pourquoi il achetait l'arme, c'est qu'il voulait se venger de Valéda Lafontaine. Mais là, on comprend que Valéda Lafontaine venait de le quitter pas longtemps avant parce que, justement, elle avait appris qu'il avait fait de la prison. Lui, celle-là...
Il était pas content.
Non. Fait qu'il voulait s'en prendre à Valéda. Et quand son père est arrivé à Blais, ils venaient de rencontrer... Autrement dit, ils sont presque arrivés tous les trois en même temps.
Il allait commettre le meurtre.
Oui.
Puis le père du gars arrive en même temps.
Ouais.
Il a le temps de tirer sur la jeune fille, Lafontaine, qui va en être handicapée. Elle ne mourra pas sur le coup.
C'est ça.
Mais elle va être handicapée pour le reste de sa vie.
Exactement.
Puis là, le père, il est atteint.
Le père essaie de désarmer son fils.
OK.
Et puis, dans là, c'est sûr que chaque témoin qui a vu la scène, c'est décrit. C'est difficile à décrire une lutte à corps à corps. Là, tout
mais
ça.
Là, je connais un peu Shawinigan. On est en ville. Là. On pas d'un rang. On pas dans le fond d'un rang. Fait qu'il y a du monde.
Oui, il y avait des témoins. Ouais,
OK. Fait qu'il y a une lutte, tout ça. Il y a un coup qui part.
Oui, on a vu après que là, il y a des coups de feu qui sont tirés.
OK.
Puis le père s'affaisse sur le trottoir. Il a fini par s'asseoir. Mais il s'assoit avec l'arme. Il avait réussi à désarmer son fils.
OK.
Mais en se faisant atteindre, en se faisant blesser gravement. Hildège, lui, s'en va.
Oui,
il prend la fuite, mais pas tellement loin. Puis c'est le policier aussi, chef de police à Shawinigan, qui était, on le revoit souvent, Napoléon Longval, qui lui, on le revoit de façon sporadique là, dans les dossiers judiciaires. Fait que c'est un nom qui circule beaucoup. Ce qui était connu à l'époque, je ne sais pas, mais moi, c'est un nom que je vois souvent.
Et étonnamment, Hildège, à ce moment-là, il est intercepté, puis il marche...
Oui, lui, il fumait son cigare.
Cool, marche, fume son cigare.
C'est ça.
Mais lorsqu'il est arrêté, là, il devient agité.
Oui. Quand que le policier, justement, le chef Longval, veut le fouiller, là, c'est la crise.
OK.
Puis en le fouillant, bien, il trouve un poignard sur lui. Là, je pense que c'est dans ses bottes ou ses bas. Voilà.
OK. Et là, l'enquête préliminaire commence. On va aller interviewer. Parce que là, le père, il n'est pas mort.
Non, il n'est pas mort. Il n'y a personne de mort encore.
OK. Ouais. Donc, la police va aller entendre les deux blessés sur le lit à l'hôpital. À l'hôpital Sainte-Thérèse de Shawinigan.
Ouais.
Et par la suite, quelques jours après, là, on est le 18 novembre 1932, le 10 décembre 32.
Mm-hmm.
10 décembre 32, excusez-moi. Adélard Blais succombe.
Ouais.
Fait que là, on n'est plus dans des blessures graves, on tombe dans une accusation de meurtre.
On a passé de tentative, on le voit dans le dossier, de tentative de meurtre à meurtre, carrément. Valéda, elle, va survivre, comme tu disais tantôt, elle va vivre quand même assez longtemps, mais Adélard lui décède. Ce qu'il y a de particulier, c'est que sa confession, son témoignage a été pris légalement, là, tout ça dans un cadre légal, sur son lit de mort. Bon, on pensait peut-être pouvoir le sauver à cette époque-là. Mais pas sa confession, mais son témoignage pris sur son lit de mort, lui, il refusait d'incriminer son fils. OK? Fait qu'on voit jusqu'où l'amour d'un père peut aller.
Malgré qu'il a voulu... Ben, il n'a pas voulu le tuer, en tout cas.
Oui, c'est ça. Puis, son témoignage a été accepté après en preuve, après sa mort. Ça, c'est des choses qui arrivent quand même pas très souvent, là.
Donc, bon, le procès, bon, on n'offre pas beaucoup parler de ça, mais le premier procès avorte à cause de la maladie d'un jury. Bien, on reprend, on reprend le procès rapidement. Donc, on va... la mère qui arrive, arrive. Édouardina Pratt-Blais va témoigner en disant que son fils n'a jamais été comme les autres. C'était bizarre un peu.
Oui, c'est
C'était
ça.
C'était bizarre. Mm. Donc, il va quand même témoigner, Hildège, sans grand succès, et le juge Marchand le déclare coupable.
Ouais. Moi, je l'ai lu, son témoignage à Hildège Blais, je ne pourrais pas te dire me rappeler des détails. Tu sais, il n'était pas innocent, là. Okay. C'est pas une erreur judiciaire.
Non, non. Fait que il est déclaré coupable par le juge Marchand. Mm-hmm. Le 18 mai 1934, après avoir reçu la visite de sa mère, mm-hmm. comme tu disais, hein, malgré tout, ouais, nos enfants restent nos enfants. Ouais. Hidège Blais devient le dernier meurtrier à être pendu à la prison de Trois-Rivières.
Ouais.
Et c'est un dossier en rapport avec ta spécialisation sur les archives. C'est un dossier qui est porté disparu.
Porté disparu?
Au Canada.
Au Canada, oui. Parce
aux archives canadiennes.
Oui, parce que moi, ce que j'ai fait dans mes recherches quand j'ai commencé, bon, tout ça, il y a une partie, je crois, là, je peux me tromper, l'enquête préliminaire est à Trois-Rivières,
okay.
à BA1Q Trois-Rivières. Le procès est à Québec à cause d'une... ça a été rendu en appel. Mm-hmm. Ça s'est rendu jusqu'en appel. Donc, il y a une partie à BA1Q Québec. Puis à Ottawa, à un moment donné, parce que normalement, le fond des condamnés à mort, RG13, est à Ottawa. C'est un code qui est urbain.
Et non X13.
Ça paraît bien comme ça. Hein,
X13?
Oui, ouais, je me rappelle un peu.
Genre secret.
Mais c'est ça, c'est qu'à Ottawa, le dossier, ils m'ont dit... parce qu'à Ottawa, normalement, c'est le dossier le plus complet
oui.
dans les affaires de condamnés
oui.
à mort.
Ben oui, parce que c'est un crime. C'est la peine ça. De mort, c'était fédéral.
C'est ça. Mais là, moi, j'avais déjà l'enquête préliminaire puis le procès.
Okay.
C'était quand même assez complet.
Ouais.
Mais quand j'y vais, souvent, j'y vais pour plusieurs dossiers à la fois. Ouais. Fait que lui, il faisait partie de mes demandes. Mais là, ils m'ont dit qu'il était porté disparu depuis 2004. Donc, qu'est-ce qui me manque? C'est peut-être juste la photo, les petites affaires. Mais quand même, j'ai tout. Là.
Bon,
j'ai le procès et l'enquête.
Mais au niveau du leg, de l'historique,
c'est, ça.
Mais
c'est,
un peu, c'est un peu inquiétant qu'on perde des
ben,
dossiers
ouais,
comme
mais
ça,
c'est des choses qui arrivent.
Ouais. Et en fin de cette partie-là,
oui.
On a parlé évidemment de la Mauricie, de l'histoire oui. du crime en Mauricie, parce qu'on s'intéressait aux condamnés à mort de la prison mm-hmm. de Trois-Rivières. T'as des lectures à nous suggérer?
Oui, bien ça, j'ai découvert ça justement pendant... c'est une revue qui a été lancée, je pense que c'est le premier numéro, qui a été lancé l'année dernière. Mm-hmm. C'est tout récent.
Belle initiative qu'on,
oui, très.
Qu'on félicite.
Donc là, on ne parle pas nécessairement de justice, mais d'histoire en général.
Oui.
Puis c'est des professionnels de l'histoire de la région qui ont parti ouais. ça. J'ai ouais. découvert ça pendant mon stage à BA1Q justement.
Oui.
Et puis ça traînait sur les tables. J'ai fait « Ah, bien, il faut que je m'abonne à ça.
Ben »
Et puis non, c'est très bien fait. C'est des courts articles. Il y en a eu un sur justement l'impact là, de la Confédération
sur la région Mauricie. De Mauricie. Puis on parle de Mauricie, mais on parle du centre du Québec.
Oui!
On a fait, Éric, le tour des 7 pendus
oui.
de Trois-Rivières, ben, mm-hmm. à la vieille prison de Trois-Rivières, oui. parce qu'on rappelle, on a déjà mm-hmm. eu des gens exécutés publiquement avant la naissance de la prison. Mais il y en a deux qui ont passé proche d'être exécutés
oui.
à Trois-Rivières, mais ils ne le seront pas. C'est les frères Gervais.
Oui.
Explique-moi un peu cette cause-là.
Les frères Gervais, c'est un peu ces deux frères, finalement, qui voulaient tout simplement se faire une banque, là.
Okay.
Et puis, ils voulaient emprunter une arme, ça n'a pas fonctionné. Ils ont fini par tuer un chauffeur de taxi.
OK. Et puis, ça se passe façon, à quel endroit, ça?
Dans le coin encore de Louisville, Saint-Léon-le-Grand,
okay.
parce que
encore?
Le corps a été retrouvé okay. dans ce okay. coin-là, oui, mais en 1951.
OK.
Et puis, c'est vraiment deux voyous, là.
Ils voulaient faire un vol à main armée.
Puis, ils ont battu à mort le chauffeur de taxi pour les quelques dollars qu'il y avait dans ses poches.
Oh!
Oui, puis ils ont été pendus, eux autres, mais à Trois-Rivières, tu sais, comme en... depuis les années 30, ben là, on pendait à Bordeaux.
Okay.
Là, mais sinon, si ce n'était pas de la potence permanente de Bordeaux, ben, ils auraient été pendus à Trois-Rivières. Okay. Mais non, ils ont été pendus à Bordeaux.
Donc, ils ont commis leur crime en Mauricie.
Ouais.
Mais ils vont être... comme c'est étonnant, cette histoire.
Ouais.
Ça me fait penser à une autre histoire.
Ouais.
Cap-de-la-Madeleine.
Ouais.
Monsieur Bouliane. Michel. Un chauffeur de taxi qui a été assassiné.
Okay.
Qui a été découvert mort. Bien, pas découvert mort, qui a été tué dans la nuit.
Okay.
Et pourquoi je te parle de ça? C'est parce que je vais me permettre de faire un lien avec notre émission où on parlait de meurtre non résolu.
Mm-hmm.
C'est un meurtre qui est resté non résolu.
Okay.
Et ça avait créé une commotion à l'époque, le meurtre de Michel Bouliane, parce que c'est un pauvre gars qui gagnait sa vie à mm-hmm. vouloir faire du taxi, qui était un vaillant, un travaillant, puis qui est mort à cause qu'il faisait son travail. Et lorsqu'il était décédé, la compagnie pour laquelle il travaillait avait fermé ses portes pour la journée.
Okay.
Il y avait des chauffeurs de taxi de partout au Québec qui étaient venus le saluer et avaient laissé dans le deuil sa femme et deux enfants, si je me rappelle bien. Okay. Pourquoi je te parle de ça? Parce que je n'avais pas fait lien, mais cette affaire-là d'assassinat d'un chauffeur de taxi me fait penser à M. Boulial. Et j'ai eu écho que c'est un cas qui serait moins cold qu'il était.
Oh!
Parce que...
Ça a bougé.
Oui. À la sortie du Québec, on a une division des meurtres. Les crimes non résolus.
Okay.
En anglais, on dit les cold cases.
Ouais.
Hein? Mais souvent, des fois, je parle avec des gens de la Sûreté du Québec. Ils disent, ça n'existe pas, les cold cases. Les enquêtes sont toujours ouvertes, mais celle-là, elle serait particulièrement ouverte en ce moment.
Okay.
Je te dis ça comme ça. Okay. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'était sauvé de ce crime-là, mais qui serait bientôt rattrapé.
Ouais. Donc, ça vaut peut-être la peine, des fois, de faire revivre ces choses-là.
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, merci, mon Éric,
sur
ces causes-là des sept pendus de Trois-Rivières. Et ça nous montre que des histoires mauriciennes, centriquoises...
Qui ne sont pas banales.
Qui ne sont pas banales, qui sont à raconter. Donc, on se dit à la prochaine fois. Merci.
Chez Enviro Connexion, nous sommes fiers de nos employés et nous serions heureux de t'accueillir dans notre grande famille. Nous sommes leaders de la gestion de matières résiduelles et nous avons des postes à combler de conducteurs classe 1 et 3, opérateurs, mécaniciens et même journaliers et éboueurs dans nos différents terminaux. Le choix, tu en as chez Enviro Connexion. On t'invite à venir parler avec nos équipes de recrutement lors de notre grande journée porte ouverte dans une région près de chez toi, le samedi 30 avril entre 9h et 14h. À Granby, chez Sani Eco, au 530 rue Édouard. À Sherbrooke, chez Sally Estrie, au 405 Rodolphe Racine. À Boisbriand, chez Enviro Connexion, au 4141 Grande Allée. À Belleuil, au 1205 rue Louis Marchand. Et à notre terminal de Laval, au 4799 rue Bernard Lefebvre. Seulement des postes d'éboueurs sont disponibles en ce moment. Impossible de t'y rendre? Pas de problème. Visite notre site maroute.ca ou communique avec Annie au 438-221-8733. Au 438-221-8733. 1-87-33. Enviro Connexion. Ma route, mon succès.
Le show à l'évêque. Truck Stop Québec.